Stéphane Bihan, bonjour.
Bonjour.
Première question, tu es musicien, donc j'imagine aussi que pour toi, c'est, je sais pas si tu avais des concerts prévus en ce moment, mais c'est un petit peu morne pleine. Hein.
Voilà, on a tous subi de plein fouet l'annulation de tous nos projets sur tous les plans. Et effectivement, je suis musicien et avec tous les artistes du label, on avait prévu un tas d'enregistrements qu'on est en train de chouchouter du coup à la maison et voilà, la résilience, c'est préparer les choses pour plus tard.
Alors donc, tu es aussi médecin généraliste et c'était l'occasion pour nous, évidemment, de te demander comment tu gères déjà cette crise de coronavirus.
Alors oui, comment on la gère, comment on l'a pris de plein fouet en fait, assez brutalement. Donc j'ai un cabinet de médecine générale dans le centre de Lille. Que j'avais démarré en janvier en fait et avec cette activité j'avais déjà l'intention de faire de la téléconsultation et d'essayer d'éprouver des nouveaux process, des nouveaux outils et voilà, c'était un peu le sens de ce cabinet et là du coup tout ce qu'on avait mis en place chacun a été complètement bousculé parce que l'année dernière on a vu des gens avec de la fièvre, des gens suspects, des gens pas suspects, mélangés, et comment gérer tout ça, c'était une complète reconstruction de notre façon de fonctionner.
Du coup, justement, la téléconsultation, tu as récemment posté sur Facebook, donc une sorte de petite, un petit coup de gueule, faut le dire quand même. Alors, il s'agit de quoi exactement ?
Alors, effectivement, je me suis servi de Facebook pour lancer un message aux gens, en fait, aux patients, parce que moi, la semaine dernière, j'ai vu arriver des patients, y compris des... je vais vous raconter, voilà. J'ai une dame qui est venue me voir, qui est une étudiante en pharmacie, donc future professionnelle de santé, qui a appelé le 15, et on lui a dit non, il faut aller chez votre médecin généraliste, qui s'est retrouvé dans la salle d'attente, malgré les systèmes de filtration que j'avais installés. Donc, alors, quand je parle de système de filtration, c'est que j'ai demandé aux gens de prendre rendez-vous en remplissant un petit formulaire que j'ai fait sur mon site internet. Donc c'est vrai que je suis un peu geek, hein, donc je me suis servi de mes atouts directement pour faire un formulaire en ligne qui m'a permis de filtrer les gens. Et avec cette technique, j'ai pu transformer des consultations en téléconsultations, des consultations physiques. Ouais, j'ai appelé les gens en disant que c'était pas le bon moment pour venir et qu'on avait une autre solution. Donc les gens le savent pas assez. Et j'ai constaté aussi que les médecins ne le savent pas assez non plus. Et là, j'ai fermé mon cabinet la semaine dernière puisqu'on n'est pas dans des conditions correctes pour nous, pour les patients. Si on est contaminé, on devient un super contaminant et on refile ça à tout le monde. Du coup, non, il faut fermer, on n'a pas les conditions. Avec 50 masques chirurgicaux, voilà, moi, entre chaque patient, je passais un quart d'heure à nettoyer le cabinet. Ce n'est pas une solution. Du coup, il faut fermer, il faut faire la téléconsultation de prime abord. Simplement, beaucoup de médecins ne sont pas formés encore, ne connaissent pas les moyens, les astuces, comment le faire. Du coup, je me suis adressé directement au public en leur disant d'arrêter d'y aller et de les aider à démarrer cette téléconsultation. Voilà.
Et justement, pour les patients, autant que pour les médecins, mais surtout pour les patients, comment ça marche la téléconsultation? Parce que c'est un nouvel objet, c'est un nouvel outil. Beaucoup de monde ne sont pas habitués à ne pas avoir un médecin devant eux, justement, pour leur expliquer leurs problèmes. Et notamment dans cette période de crise, comment ça se passe?
Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois c'est nouveau, mais pour moi c'est plus nouveau. Ça fait 3 ans que je travaille là-dedans, j'ai développé des projets sur plusieurs endroits, dans des déserts médicaux, etc. Donc, ça n'a plus rien de nouveau pour un certain nombre de praticiens ou de patients, d'ailleurs. Il y a des utilisateurs maintenant aguerris dans les patients. Mais voilà, le paradoxe, c'est que c'est nouveau, mais il n'y a rien de nouveau. Vous pouvez appeler votre famille en Skype, on peut se parler au téléphone. Donc, une téléconsultation, ça n'est jamais qu'une conversation qui peut être téléphonique. Donc, le téléphone existe depuis quand même très longtemps et on parle à son médecin depuis longtemps au téléphone. Il y a 2 ans, la Sécurité sociale a ouvert la possibilité de rendre ça, légal ou et d'autoriser la fabrication d'ordonnances et la transmission de documents et via ces moyens qui existaient depuis longtemps. Donc rien que le téléphone, c'est un moyen de téléconsultation. La téléconsultation remboursée nécessite une vidéo. Alors du coup, ça ressemble globalement à un Skype ou un WhatsApp vidéo, mais ou un Messenger. Mais voilà, par rapport à ce qu'a dit au ministre, le ministre la semaine dernière, ensemble, voilà, vous pouvez, allez-y, faites comme ça. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Du coup, les médecins sont perdus. On avait des plateformes super compliquées. Et d'un autre côté, les autorités disent, utilisez les outils des GAFA comme ça, d'un seul coup, boum, débrouillez-vous. Bon, il y a quelque chose entre les deux, mais la vérité est qu'il est urgent de l'utiliser.
En tant que médecin généraliste, question plus spécifique, comment tu vois le coronavirus ? Des gens qui vont t'appeler en téléconsultation notamment, qui vont te dire « voilà, je me sens pas bien, je sais pas trop les symptômes, je sais pas comment on fait, j'ai pas de fièvre mais je me sens pas bien du tout, est-ce que c'est des allergies ?» Parce que c'est aussi le printemps, les pollens arrivent forcément. Quels sont, selon toi, les premiers symptômes vraiment véridiques de ce virus?
Alors, sur ce qui est éprouvé par les premières études qu'on a eues en Chine, en Italie, c'est que les symptômes sont essentiellement un mal de gorge, en général, puis une toux qui est sèche. Il n'y a pas forcément de nez qui coule, il n'y a pas forcément de signes des yeux qui grattent, etc. Donc tous ces signes d'allergie, évidemment, nous inquiètent au plus haut point, c'est normal. Mais dans les signes cliniques, c'est tous les signes cliniques qu'il y a dans la grippe habituellement. On va trouver le mal de gorge, la toux, aussi des douleurs abdominales, des diarrhées, des vomissements, des maux de tête. Bon, beaucoup de choses qui sont vraiment pas spécifiques. Et du coup, en médecine générale, on est bien embêté pour faire le tri. Et effectivement, dès la semaine dernière, j'ai cherché à comment faire des tests. Et en fait, ça n'était pas... Ça n'était pas possible de faire des tests en ville, même au centre-ville de Lille. Donc entre le discours officiel et puis sur le terrain, ce qu'on peut faire, on étudie la clinique, on récolte les symptômes, mais faire le tri, c'est aussi attendre dans le temps, et quand on a des petits symptômes, on les soigne, puis on reste à la maison, on évite surtout de transmettre potentiellement quelque chose. C'est pour ça que ces consignes sont aussi importantes.
Alors, il y a une étude américaine qui a été annoncée récemment, je crois que c'est hier ou avant-hier, comme quoi, justement, ce virus, il était un peu volatile et qu'il pourrait rester plusieurs heures sur le plastique, l'acier, etc. Toi, ton point de vue là-dessus ?
Alors, mon point de vue, c'est qu'effectivement, il est très difficile d'avoir des informations certaines. On entend des experts dire un peu l'un et l'autre. Globalement, il faut comprendre que c'est un virus qui se transmet par les gouttelettes. Si on éternue, les larmes, si la salive va contenir une grande quantité de virus, mais il se transmet aussi par l'air. Et c'est là toute la dangerosité de ce virus, c'est que il y a une transmission par l'air, ce qui est la chose la plus dangereuse et la plus contagieuse. Après, pour ce qui est des surfaces, apparemment, effectivement, il y a une contamination qui peut se faire par la surface un maximum de 3 heures. J'ai entendu l'un et l'autre. Alors, quand on ne sait pas, on prend la mesure la plus prudente. Certains disent non, il n'y a pas eu de contamination de surface du tout. Donc ça, je n'y crois pas. Hein, les poignées de porte, etc. Mmh. Il faut les nettoyer. Donc, concrètement, moi, j'ai toujours ce genre d'habitude. Je n'attrape jamais la gastro, la grippe, alors que j'en vois des dizaines tous les jours. Simplement, le lavage de main est très efficace. Le fait de nettoyer les poignées de porte, tout ce qu'on touche régulièrement, passer un coup de désinfectant ou de spray, est un réflexe du quotidien. Là, il faut rajouter cette notion de transmission par l'air. Et du coup, les distances sont vraiment importantes. La distance d'un mètre, c'est même, ça paraît minime.
Est-ce que tu as peut-être quelques précisions à apporter sur comment nettoyer, avec quel produit hyper efficace? Est-ce qu'il y a un produit spécifique pour essayer de faire disparaître ces traces, ces pseudo-traces de coronavirus sur les poignées de porte?
Très simplement, les produits qui éliminent les bactéries habituellement, qui nous sont vendus en ménager, et du moment que c'est bactéricide, virucide, ça fonctionne. J'utilise du sanitol, des produits à base de javel, des lingettes désinfectantes générales, ça, tous ces produits fonctionnent.
Comment toi tu vois, comment gère le gouvernement? Est-ce que tu penses, selon toi, que tout est nécessaire?
Il n'y a pas de surdimensionnement au confinement. Le confinement actuel est juste capital. Quand j'étais effaré la semaine dernière, et c'est vrai que j'ai tardé à faire mon coup de gueule. J'ai vraiment hésité à faire ce coup de gueule la semaine dernière mes amis. Je voyais mener une vie normale. On a besoin du confinement parce que effectivement, on a vu à Colmar que le virus donnait des infections respiratoires extrêmement sévères à des jeunes, à toute la population, et c'était vraiment pas une grippe un peu plus méchante que la grippe habituelle. Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est extrêmement dangereux. Là, le système de soins va être saturé si on est tous malades en même temps. Donc le seul truc, c'est vrai qu'individuellement, ça peut ne pas être grave, effectivement, et individuellement, si on est dans un cas grave et qu'on peut être soigné, on peut très bien s'en sortir, mais il faut laisser aux soignants l'espace de pouvoir vous soigner. Du coup, ce qui est capital, c'est d'étaler cette épidémie. Alors après, sur la réponse du gouvernement, j'écoute pas trop ce qu'ils racontent parce qu'il y a beaucoup de blabla, et concrètement, ils sont débordés. Tout le monde est débordé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, et du coup, je pense que voilà, j'ai créé un blog pour les généralistes, pour les aider à se former à la téléconsultation, etc., parce que chacun doit prendre les responsabilités de ce qu'il peut faire. Et là, il ne faut pas demander à quelqu'un et arrêter de râler. Oui, le gouvernement, il nous envoie pas de masque, il ne nous fait pas ceci, il ne fait pas cela. Ben oui, mais ils ne peuvent pas le faire. Ou bien, en tout cas, ils l'ont géré d'une autre façon. Alors, est-ce que c'était intelligent de couper toutes les commandes de masques, etc., des gels pour les généralistes? Ça, je suis pas très certain. Ça, je suis quand même assez en colère. Mais globalement, je peux pas leur en vouloir d'être débordé. On ne peut pas en vouloir à personne. Donc, chacun doit prendre sa responsabilité. Alors, pour certains, ça va être simplement de rester chez soi. Et ma foi, ça n'est pas si méchant. Et pour d'autres, c'est d'agir, de changer ses habitudes et d'orienter tous les efforts qu'on peut faire professionnellement vers quelque chose qui aide la crise.
Ouais, il faut dire, faut préciser, hein, c'est vrai que c'est un épisode épidémiologique complètement inédit. Dernière petite question, si tu avais un message justement à faire passer aux patients qui sont anxieux, qui ne savent pas comment faire, ce serait lequel?
Alors effectivement, l'anxiété, c'est le premier truc qui fait qu'on va aller consulter son médecin. Et quand on aime son médecin généraliste, il faut pouvoir lui parler, etc. Mais actuellement, il faut pas aller le voir, tout simplement. Il faut l'appeler et il faut l'aider à organiser la téléconsultation. S'il ne sait pas le faire, j'ai créé un blog pour ça, pour qu'il ait un outil complètement indépendant, ou bien peut-être qu'il a Doctolib déjà. S'il a Doctolib, il va pouvoir activer le système de téléconsultation qui est vraiment formidable. J'ai travaillé avec eux la semaine dernière sur le développement de nouveautés, donc qui permettent de filtrer les patients, etc. Il y a d'autres services comme CARE, par exemple. Il y a un service privé, QARE. Vous pouvez appeler un médecin, pas H24, pas la nuit, mais toute la journée. Voilà, on est tous à bloc de pouvoir vous répondre, faire des téléconsultations pour pouvoir gérer votre angoisse, vos stress, et effectivement, essayer de se dire, voilà, c'est de l'allergie, c'est autre chose. Donc, voilà, détendez-vous, restez à la maison, faites-vous du bien, faites de la méditation, du yoga et des activités que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. C'est comme ça qu'on va le mieux possible passer cette crise. Et si vous voulez parler à un docteur, c'est possible, utilisez la téléconsultation.